Oui, Nicole Boin, professeure de lettres histoire en lycée professionnel pendant 40 ans et formatrice. Je viens un petit peu vous titiller et contester la bivalence parce que il me semble que c'est au minimum une trivalence, parce que la didactique de l'histoire et la didactique de la géographie sont très différentes. Que on pourrait aussi parler de l'instruction civique, même si ce n'est pas une discipline en lien avec une discipline universitaire, mais plutôt avec des pratiques sociales de référence. Il y a une forte place de l'histoire de l'art, et la présence du cinéma est de plus en plus prégnante aussi. J'en profite d'ailleurs pour dire que vient de sortir un numéro des cahiers pédagogiques sur l'utilisation du cinéma dans l'enseignement. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que, enfin, moi sur le terrain, je l'ai vécu comme une polyvalence plus que comme une bivalence.
Oui. Alors, tout à fait. Sauf qu'il me semble que pour enseigner la littérature, la ressource va être bien sûr le français, mais aussi l'histoire, beaucoup plus que la géographie, parce que justement ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait au niveau historique une consubstantialité entre le français et l'histoire, qui sont les deux disciplines tutélaires qui ont fondé les humanités au XIXe siècle. La géographie, sa didactique, alors ne m'emmenez pas trop sur le champ de la didactique de la géographie, j'aurais beaucoup de mal, mais on est sur, me semble, sur une didactique qui va, qui ne met pas au centre, me semble-t-il, le texte, le document textuel, même si j'imagine que la carte, il me semble que comme grand marqueur de la didactique de la géographie, ça va être la carte. Je ne dis pas qu'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres supports, il y en a évidemment tout. Comment dire ? Toute discipline s'appuie sur des supports de plus en plus diversifiés. Et vous l'avez dit justement en citant le cinéma. Il y a les images animées maintenant, etc. Bon. Simplement, pour que les élèves appréhendent la littérature c'est le texte écrit. Ça, on ne peut pas le contester. Appréhender le texte écrit, c'est aussi les faire entrer dans l'écriture, ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile pour les élèves de lycée professionnel. Donc, l'idée, c'est comment rendre accessible cet apprentissage d'un texte écrit littéraire, difficile, et faire aussi écrire, alors ça j'ai pas eu le temps de développer, mais on découvre la littérature aussi par l'écriture, hein, avec des écritures d'invention en particulier. Et du coup, si on est dans cette exigence de l'écrit, eh bien, quel est le levier que l'on peut faire jouer par rapport à cette bivalence ? C'est le levier de l'histoire. Ça ne disqualifie absolument pas ni la géographie, on construit des humanités avec la géographie. Ça ne disqualifie surtout pas l'éducation civique, mais sur le texte écrit, quelles sont les deux didactiques porteuses, hein, qui sont vraiment fortement articulées au texte écrit et au texte littéraire, c'est historiquement, didactiquement, épistémologiquement, l'histoire et le français. Voilà. Et c'est aussi l'idée d'oser conserver, enfin, bon, moi j'ai, comme vous, en tant que formatrice, j'ai fait un très très grand nombre de visites. Et il y a une sorte de frilosité qu'on comprend bien chez nos collègues de lettres histoire, d'oser l'écrit avec les élèves. Et d'oser un écrit exigeant qui ait une visée littéraire. Or, les professeurs que j'ai rencontrés, ces fameuses humanitatives professionnelles, professoresses, qui ne sont pas représentatives sans doute évidemment de la majorité des enseignants, mais qui sont très précieux pour leurs pratiques, qui sont des ressources et des réservoirs de pratiques qui marchent et qui osent un apprentissage de la littérature exigeant avec leurs élèves, à la fois dans la lecture littéraire et dans l'écriture. Alors je suis prudente. Écriture à visée littéraire. Ils n'écrivent pas de la littérature, nos élèves du lycée professionnel. Mais ils tendent à l'imitation de textes littéraires. Donc c'est bien dans l'idée aussi de vraiment. on est dans une culture qui est quand même une culture de l'écrit à l'école. On peut le regretter. On peut utiliser des détours pour que justement les élèves de lycée professionnel ne soient pas disqualifiés par cette culture de l'écrit dominante en leur proposant justement travail sur l'image, etc. Ça, c'est tout à fait... Au contraire, ça les motive. Donc c'est un puissant outil de motivation et de structuration intellectuelle aussi. Hein. Mais c'est quand même la culture de l'écrit qui est dominante et c'est peut-être celle qu'il faut oser quand même prendre à bras-le-corps en lycée professionnel. Voilà, en évitant des pratiques peut-être quelquefois, oui, j'allais dire un peu frileuses, parce qu'on craint que les élèves ne rentrent pas dans l'activité de lecture d'un texte littéraire ou d'écriture à partir d'un texte littéraire.
C'est plus une remarque, hein, oui. Parce que du coup, ça m'amène à réfléchir, en fait, parce que là, du coup, vous avez abordé le problème des profs de lettres histoire. Mais je me posais la question, qu'en est-il des profs de lettres anglais quand ils abordent le français, du coup? Est-ce que la démarche... parce que, du coup, on pourrait penser qu'il y a une bivalence, alors...
Bien sûr. Alors là, il y a un très beau chantier... Mais je ne sais pas qu'il faudrait qu'il y ait de la recherche qui s'y intéresse, mais c'est tout à fait. Mais là, ça va être sur le côté langue que les passerelles vont être passionnantes. Il est bien évident qu'en littérature et en histoire, ça va être le fond culturel qui va être commun avec le texte littéraire. En langue vivante et en français, le noyau commun, c'est la didactique de la langue vivante. Et là, il y a des passerelles. Alors attention, la didactique de la langue maternelle en français est quand même très spécifique par rapport à la didactique de la langue étrangère. On est bien d'accord. Mais grâce au FLEU, il y a une didactique du français langue étrangère qui existe. Là, il y a sûrement, je crois, je pense qu'une ce que j'appelle une didactique bidisciplinaire anglais ou espagnol ou allemand lettres me semble tout à fait envisageable et à construire. Mais là, ça sort de mon champ de compétences, mais on y réfléchit un petit peu, puisque dans le parcours dont je suis responsable, on s'occupe des lettres anglais aussi. Donc j'en dis, mais bon, on est, comme vous le savez, on est tous très occupés en ce moment par des questions organisationnelle, et malheureusement on n'est pas trop sur le pédagogique, mais on rêve d'être enfin sur le pédagogique, et ça c'est quelque chose qu'on a commencé un petit peu à ébaucher avec mes collègues d'anglais, parce qu'on pense qu'il y a des passerelles aussi à faire.
Pendant que j'y suis, je rajouterai bien la philo. Ah oui. C'est vrai que le programme de terminale en particulier, déjà celui de première, mais surtout celui de terminale, tire un petit peu de ce côté-là. Et justement, j'ai été formée, moi, en interdidactique par Michel Tozzi. Oui. Et le travail qu'on a pu faire autour de textes entre la didactique littéraire, la didactique de l'histoire et la didactique de la philo était fort intéressante.
Tout à fait. On a beaucoup à gagner à créer des passerelles avec des sciences humaines. Simplement, vous voyez, je me méfie quand même que tout soit dans tout et qu'on ne voit pas où est la limite. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on veut militer pour comme j'essaie de le faire, pour la bivalence, une vraie bivalence, pas simplement une bivalence incidente, c'est-à-dire on ose construire une séquence bivalente, ou même une séance, déjà modestement, il faut quand même se méfier que la posture soit claire pour les élèves, qu'ils sachent que l'approche, la démarche qu'on leur propose, c'est une approche disciplinaire, celle de la philosophie, celle de l'histoire, celle du français, celle de l'anglais. Parce que on s'aperçoit que quand même les élèves qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont le plus au clair sur les spécificités disciplinaire, que c'est explicite pour eux, que c'est clair. Vous avez quand même beaucoup d'élèves en lycée professionnel qui vous, au milieu d'un cours, le cours est commencé depuis 20 minutes et qui sait, enfin moi j'ai vu ça beaucoup en visite, madame on est en français, qui disent à la collègue qu'on regarde, qu'on est en train de visiter, madame on est en français ou en histoire? Bon, je vous parle, j'ose même pas vous parler des cahiers, avec la différenciation entre les deux disciplines. Là, il y a quelque chose vraiment à réfléchir. C'est à la fois, je crois, une immense chance de pouvoir de pouvoir enseigner les deux disciplines. Et les enseignants ne s'y trompent pas. C'est-à-dire qu'au début, ils disent qu'ils sont en quête de légitimité, ils tâtonnent, etc. Mais 3, 4, 5 ans plus tard, ils sont contents d'être bivalents et ils ne souhaiteraient pas revenir à la monovalence. C'est-à-dire qu'ils l'assument comme une richesse, d'accord ? Ceci étant, elle reste vraiment efficace, cette richesse, si on ne contamine pas une discipline par l'autre. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de cours, mais c'est normal pour des jeunes débutants, j'ai vu quand même beaucoup de cours de français qui ressemblaient à des cours d'histoire. Alors que je venais, bien sûr, les visiter en français. Mais il y avait une approche qui était véritablement historienne. Et on ne peut pas en vouloir à un jeune débutant qui est d'une valence historienne et qui a fait quelques mois de formation et qui, en didactique du français, est complètement, enfin, ne maîtrise pas grand-chose. Alors ça peut venir.
Alors moi, je vais être très provocatrice, hein, oui. Mais effectivement, je me demande dans quelle mesure, en particulier en lycée professionnel, mais même plus généralement, dans quelle mesure c'est si important que ça, ce cloisonnement. Dans quelle mesure, à partir du moment où un élève construit du sens sur un texte, qu'il est capable de faire des références à l'histoire, le contexte du texte, qu'il est capable de comprendre. Je suis pas si sûre que vous que ce soit essentiel que l'élève soit au clair sur la didactique du français, la didactique de la philo, la didactique de l'histoire. C'est un peu de la provocation, mais...
Bien sûr.
Mais je me demande dans quelle mesure le décloisonnement ne donne pas du sens.
Oui, moi je vais tout à fait dans le sens de ma collègue. Moi j'enseigne seulement que depuis 20 ans. Je suis géographe de formation, je l'ai un peu oublié depuis. Et la bivalence, c'est ma richesse. C'est vraiment mon credo absolu, la bivalence. C'est quelque chose qui me fait m'épanouir dans mon travail. Et j'aime décloisonner complètement les deux. D'ailleurs, nos inspecteurs aussi appuient sur ce décloisonnement depuis les nouveaux programmes. Et normalement, en terminale, mes élèves que je suis au bout de 3 ans savent de même que cette séance-là s'inscrit vraiment dans une séance transversale entre le français et l'histoire-géographie et que les deux sont complémentaires. Et je n'ai plus ce genre de remarques en terminale, en général, en me disant, mais est-ce que c'est de l'histoire ou de la géographie ça, ou du français, ça s'inscrit bien. Et ils savent que l'un ne va pas sans l'autre et que les objets d'études en français, ils sont aussi, en particulier en terminale, construits de sorte que, par exemple, si j'utilise le film Gandhi, le cours d'histoire sur la décolonisation de l'Inde va être formidablement bien décrypté par les élèves, alors que c'est un cours difficile, et ils pourront produire à l'écrit un plaidoyer de Gandhi à l'image d'eux, etc., etc. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien perturber un peu mes élèves en leur disant, voilà, je suis enseignante de lettres histoire et on va de l'un à l'autre. Alors peut-être avec des étourderies, c'est vrai, mais c'est vraiment, je ne reviendrai jamais dans le général. La monovalence, pour moi, elle est absurde. Oui. Et j'en tire une richesse peut-être maladroite, hein, mais phénoménale. C'est ce que je trouve le plus passionnant dans notre travail. Alors je vais passer la parole à ma collègue qui est en gestion administration dans le même lycée que moi, qui va peut-être avoir un autre point de vue.
En fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une opposition. Non. Effectivement, les inspecteurs, par exemple, je suis professeure, donc anciennement de secrétariat, maintenant de gestion administration, et on nous dit qu'il faut enseigner donc la gestion, l'administration, l'économie et le droit. Donc on nous dit c'est transversal.
C'est quadrivalent.
On prend le cas du scénario qui a été évoqué hier. Si on prend le scénario, effectivement, il y a de la gestion, de l'administration, de l'économie et du droit. Et effectivement, les élèves, là je vous rejoins, nous demandent, on fait une approche par exemple sur le contrat de travail, le secteur d'activité d'une entreprise, mais nous sommes en économie ou en droit, etc. Donc ça ne nous empêche pas de leur dire ça c'est de l'économie, ça c'est du droit, ça c'est de l'administration, ça c'est de la gestion. Effectivement, en terminale, on n'a plus besoin de leur dire, mais quand même, ils nous posent la question, et notamment en seconde cette année, mais nous sommes dans quelle matière ? Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. En fait, il faut préciser de temps en temps la matière lorsqu'ils nous la demandent. Mais c'est vrai qu'après, ils se rendent bien compte que c'est transversal. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait tant d'opposition. Mais c'est vrai qu'en seconde, parce qu'ils ont des reliquats probablement de collège... Enfin, je suppose, je ne sais pas, en fait, oui. Je ne sais pas, là, j'interprète. Mais ils ont besoin, enfin en tout cas il me semble qu'ils nous demandent, en ce qui me concerne par exemple, ils me demandent, mais tout d'un coup vous nous parlez de l'économie, tout d'un coup vous nous parlez de droit, donc je leur précise, mais effectivement après ça s'estompe la nuance, mais je crois qu'au début c'est bien d'être clair. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait tant d'opposition. Je ne suis pas sûre. Et en entreprise, puisqu'on en revient, puisque c'est notre finalité, en entreprise, quand on est gestionnaire administratif, on fait un petit peu, on complète un contrat de travail, on fait une remarque de données quantitatives, on fait une lettre. Donc finalement, on fait bien un peu de tout. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait tant d'opposition, finalement. Mmh. Voilà.
Bah, je vous remercie parce que vous m'évitez de, voilà. de répondre. Ça me semble très très juste et ça confirme ce que j'ai observé dans la quarantaine d'entretiens que j'ai menés avec des élèves de lycée professionnel, seconde, première, terminale. On s'aperçoit quand on interroge sur les disciplines les élèves de seconde, pour eux c'est un brouillage total entre le français et l'histoire, mais c'est pas tant parce qu'ils ont le même professeur. De toute façon, c'était déjà un brouillage en troisième, puisque j'ai aussi interrogé des élèves de troisième qui étaient orientés en lycée professionnel. Ils avaient beau avoir deux professeurs différents, ils n'étaient pas capables de formuler véritablement ce qu'on faisait en français par rapport à ce qu'on faisait en histoire, mais même de façon simple. C'était un véritable brouillage, c'était on apprend, on écrit. On lit, on écrit, et ils ne voyaient pas la spécificité disciplinaire. Alors, en seconde bac pro, il y a ce brouillage qui est réel, et je vous dis qu'il n'est pas lié au fait qu'ils ont un seul professeur. C'est de toute façon, ils ne voient pas trop la différence des deux approches. Par contre, les choses deviennent de plus en plus claires et mieux construites avec la maturité intellectuelle. Les premières, déjà, font des réponses beaucoup plus précises, et les terminales n'ont plus ce genre de problème, et ça ne m'étonne pas que, du coup, les séquences ou les séances bivalentes en terminale marchent très bien et qu'au contraire, c'est un aboutissement, me semble-t-il. C'est un aboutissement. Mais il me semble que tant que les choses et les approches ne sont pas suffisamment claires et maîtrisées par les élèves, il faut vraiment baliser les choses. Et on peut faire en seconde. Le dispositif que je vous ai rapidement présenté, il a été fait en seconde.
Moi, j'ai une question, j'allais dire très naïve. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est une leçon ou une séance bivalente du point de vue de l'activité de l'enseignant? Comment il fait pour organiser ou pour mettre en place une leçon bivalente? Je ne suis pas du tout de la discipline, donc effectivement, je suis très curieuse de savoir à quoi ça correspond, parce que pour moi, c'est un peu flou.
Oui. Voilà. Alors... Est-ce que vous souhaitez que je vous propose l'exemple du dispositif expérimental ou plus généralement ?
Oui, c'est ça.
Oui. Pour le dispositif expérimental, c'était tout simple. Il y avait trois textes littéraires et chaque texte littéraire a été abordé une heure en histoire avec un regard et des méthodes d'historien proposées aux élèves, c'est-à-dire le texte était vu dans quel savoir on prélevait dans le texte les informations qui permettaient d'appréhender le contexte historique et le contexte littéraire. Le texte était mis en rapport avec d'autres documents comme dans une didactique ordinaire de l'histoire. Et ensuite, pendant une heure, deuxième heure, une semaine plus tard, le même texte était revisité, mais avec une approche littéraire. C'est alterné. Et c'est vraiment au niveau de l'approche, c'est-à-dire le texte est travaillé selon les deux approches différentes, selon une méthodologie différente qu'on essaie de faire toucher du doigt aux élèves.
Donc, moi, j'avais une question par rapport à vos observations. Est-ce que vous avez pu parfois mettre un petit éclairage sur l'histoire des arts?
Ça, c'est un chantier qui j'avoue, c'est pas un chantier qui va beaucoup me mobiliser, parce que c'est vrai que l'histoire des arts, elle est obligatoire, elle est présente explicitement dans les programmes. Il y a une ligne histoire des arts qui correspond à chaque objet d'étude, c'est clair. Et que vraiment l'histoire des arts, c'est en effet le lieu privilégié de construction de la culture artistique et de la culture historique, bien évidemment. Bon, simplement, alors ça m'est personnel. la dérive que j'observe dans certaines pratiques de cours d'histoire des arts, voilà, c'est justement de... ce sont des séances qui sont très orientées sur l'analyse de reproduction artistique, ce qui paraît tout à fait logique et attendu. Pas forcément, mais bon, ce que j'observe, c'est ça, avec une part de l'écrit qui est quelquefois un peu minorée. Voilà. Et c'est pour ça, et il me semble que la didactique de l'analyse d'image est une... j'ai beaucoup travaillé l'histoire des arts avec les élèves et avec les professeurs stagiaires, mais ce n'est vraiment, c'est pas mon champ de recherche privilégié, parce que ce que je mets au centre, c'est vraiment le texte et l'écriture.
Et justement, enfin, par rapport au texte, etc., vous n'avez pas vu des moments où on pouvait faire rentrer l'histoire des arts à partir du français ou de l'histoire géographique ?
Bien évidemment.
Parce que c'est l'histoire des arts et pas de l'art.
On est bien d'accord.
C'est ça le problème, c'est que souvent les gens y confondent. Mais...
Par exemple, pour l'approche historienne, quand il s'agit d'étudier le texte est vu comme une matrice... Il est abordé d'abord en histoire, mais analyser un texte en histoire n'a pas beaucoup de sens si on le met pas en relation avec d'autres documents pour construire le savoir historique, alors qu'en français ça ne nous gêne pas de travailler sur le seul texte littéraire et de faire éventuellement quelques références textuelles. On va en lecture analytique s'occuper que du texte seul. En histoire, même si on va s'intéresser au texte littéraire, ça sera pour le mettre en lien avec d'autres documents pour construire le savoir historique. On ne va pas construire le savoir historique sur un seul document. En histoire, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors qu'en français, ça ne nous gêne pas beaucoup. Hein. Ça nous gêne moins, en tout cas. Donc, dans ces autres documents, il est bien évident que les documents qui relèvent de l'histoire des arts ont une place, me semble-t-il, privilégiée. Mais mon souci, c'est le document matriciel pour la démarche, c'est un texte. Un texte écrit, un texte littéraire, voilà. C'est pas une imposition que je... C'est même pas une préconisation. C'est un objet de recherche qui m'intéresse. Voilà. Après qu'on fasse autrement, je le comprends très bien.
Pour répondre à la question de Sabine tout à l'heure, j'ai eu l'occasion rapidement d'effleurer la progression de première l'autre jour. Et par exemple, je disais que dans la première séquence de français du côté de l'imaginaire, en réalité, je partais d'une première séance qui n'était pas que du français, c'est-à-dire que je partais du court-métrage L'île aux fleurs, qui est à la fois une œuvre cinématographique et il y a un texte littéraire également, et qui est en même temps qui aborde en même temps énormément de sujets. Et mon but, quand je commence l'année scolaire par ce document, c'est de donner un fil rouge et de faire comprendre aux élèves que tout ce qu'on va étudier pendant l'année en français, en histoire, en géographie, en instruction civique, va être lié par le sens, hein, quelle que soit effectivement la discipline abordée. Et donc je passe le film qui fait 12 minutes. Ensuite, je mets les élèves en binôme et chaque binôme a un chapitre, un objet d'étude, on dit maintenant, en histoire, en géographie, en instruction civique, en français, et ils doivent retrouver à travers ce document les éléments qui vont être traités dans l'année. Et là, effectivement... C'est pour ça que je pense qu'on n'approche pas tout à fait la polyvalence de la même façon. Là, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr que chacun a un sujet d'une discipline différente, puisqu'il y a des binômes qui travaillent sur des sujets d'histoire, des binômes qui travaillent sur des sujets de français ou de géographie, puisque tout le programme est de l'année sur la mondialisation et l'interculture. mondiale. Donc je vois bien le lien, moi, quand même, entre la géographie en première, dans les autres années aussi, mais en particulier en première. Hein, y a la mondialisation et un tiers du programme, c'est culture des pays et culture internationale. Donc là aussi, le texte littéraire peut prendre de la place. Donc voilà, donc par exemple, hein, à partir d'un film comme celui-là, on travaille pour voir comment la scolarité fait qu'on saucissonne les connaissances. Moi, j'y vois plus un inconvénient qu'un avantage. Combien de fois il m'arrive de trouver des élèves qui, vous avez raison, le passage à l'écriture pour eux fait problème. Et souvent en rédaction en français, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à commencer. Et quand je leur dis, mais est-ce que sur tel chapitre d'histoire ou de géographie, on n'a pas parlé de ça, et est-ce que ça pourrait pas nourrir votre réflexion et vous permettre de... Et ils me disent, ah mais on a le droit. On a le droit de parler de quelque chose qu'on a étudié en histoire dans, si c'est en lien, oui, bien sûr qu'on a le droit. Et personnellement, je pense que plus ça fait du lien, plus ça construit du sens, plus ça a de la valeur. Mais je suis sûrement, effectivement, bien que littéraire d'origine, moins attachée à la, plus attachée à l'interdidactique, qu'à la didactique de la discipline.
Alors, vous mettez du doigt sur un gros problème qui est aussi spécifique du public de lycée professionnel, c'est leur difficulté à faire, j'allais dire, spontanément des liens. Et on sait que les élèves en réussite, les sciences de l'éducation l'ont montré vraiment de façon magistrale, que les élèves en réussite, c'était ceux qui étaient capables de dépasser la situation d'apprentissage, de dépasser les savoirs, de les décontextualiser et de les mettre en lien et de ne pas réfléchir seulement de façon cloisonnée. Tout à fait. Et que lorsque l'exemple que vous signaliez de cet élève est tout à fait représentatif, il ne s'autorise pas à faire les liens parce qu'il a une pratique scolaire compartimentée, qui est d'ailleurs celle du système éducatif français. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont été... voilà, qu'ils ont été formatés, tout à fait. Et du coup... Je trouve que le dispositif que vous avez décrit de rentrer dans la culture avec ce film et après de ménager des pôles disciplinaires pour faire travailler la mise à profit du film, etc., me semble une bonne chose parce que ça rend lisible le fait que les disciplines dialoguent entre elles et interagissent. Et ce qu'on peut regretter, justement... c'est pour ça, alors moi mon sujet c'est enseigner la littérature, hein. C'est pour ça que je me permets de demander l'appui de l'histoire, mais je me permettrai pas de demander l'appui, ou peut-être de l'histoire des arts, vous avez pas tort, mais je me permettrai pas de solliciter l'appui d'autres disciplines qui seraient trop instrumentalisées. Voilà, l'idée c'est de pas instrumentaliser aussi les autres disciplines au service de cette entrée là mais il me semble que encourager en formation, c'est vraiment des pistes de formation, encourager en formation les professeurs à oser installer lisiblement des dispositifs, des activités qui mettent en synergie plusieurs disciplines. Mais le dire, parce que j'ai été très frappée dans une visite chez un jeune enseignant, le lien a été fait par l'élève. Il m'avait présenté sa séquence, je savais ce qu'il avait fait en histoire, il faisait quelque chose de très intéressant, et c'est un élève qui a levé la main et qui a dit « Ah, mais c'est ce qu'on a dit la semaine dernière en français. » Lors de l'entretien, j'ai dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas pointé explicitement ?» Voilà, c'est-à-dire que mais voilà, l'afficher pour se servir de levier là-dessus, et surtout l'expliciter. Il faut guider aussi les élèves dans la mise en lien d'une discipline à l'autre, explicitement. Ça a été montré que c'était très fructueux. Voilà.
Oui, alors moi je ne suis pas enseignante en français et je n'y connais pas grand-chose. Si, j'aime lire. Mais par contre, je suis un peu étonnée par le nombre donc d'historiens dont vous parlez qui s'attachent à la littérature. C'est normal parce que je pense qu'à la base, ils étaient littéraires, bacs, etc. Mais qu'en est-il? Parce que moi, je vois des collègues qui sont littéraires au départ, qui sont des professeurs de lettres, et qui ont beaucoup de mal à s'estimer compétents en histoire et à faire le lien entre les deux. Donc qu'en est-il de... Parce que ça existe quand même. Je ne sais pas si on est encore à 80% d'historiens ou géographes. C'est peut-être encore beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un chiffre.
Mais je trouve que... Actuel, non.
Il me semble que dans l'autre sens, c'est peut-être plus difficile. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'ils arrivent à... Et puis deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas avoir à l'avenir un sujet commun de français histoire géo qui partirait de même texte et qui au bac, parce qu'ils cloisonnent, mais nous cloisonnons enfin.
C'est le cas en BTS.
Ouais.
Alors non, malheureusement j'ai enquêté auprès d'enseignants de Valence d'origine lettres, mais comme c'était bon, ils avaient déjà acquis une certaine maîtrise dans la didactique de l'histoire et ils étaient relativement à l'aise. Donc je ne pourrais pas. C'est vrai qu'on s'intéresse peu, et c'est une bonne question me semble-t-il, à la conversion du littéraire en historien, alors qu'on se mobilise beaucoup à cause du nombre. On se mobilise beaucoup sur la conversion de l'historien d'origine en professeur de lettres, et que ça serait aussi une bonne chose de voir ce qu'il en est dans l'autre sens. Mais malheureusement, là, je n'ai pas d'indicateur à vous proposer, puisque les professeurs que j'ai enquêtés se débrouillaient vraiment très bien en histoire désormais. Concernant votre deuxième point, qui était, rappelez-moi, les sujets communs. Alors, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de points communs possibles entre l'histoire et le français. Vous avez déjà tout ce qui est la biographie, l'autobiographie, qui intéresse à la fois l'historien et le littéraire. Vous avez aussi le récit, faire écrire. Là, vous avez des dispositifs pédagogiques très novateurs qui sont très intéressants sur écrire l'histoire. Bon, par exemple, écrire une lettre de Poilu. Voyez, c'est ce que vous disiez, je crois, tout à l'heure, un plaidoyer à partir de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que la forme littéraire vient au service du contenu du savoir historique. Donc, il y a beaucoup de... Bon, au niveau de la forme, au niveau des thèmes, l'argumentation aussi. Argumenter en histoire, argumenter en français. Il y a des formes qui peuvent être mobilisées de façon conjointe. Ce qui est un petit peu paradoxal, pour prendre aussi un exemple qui aurait, c'est la philosophie des Lumières. Vous l'avez en français en première et vous l'avez en histoire en seconde. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Bon, il y a les avantages et les inconvénients des deux. Hein. Soit ils revisitent en français ce qu'ils ont vu en seconde, donc c'est pas mal pour la stabilisation de la connaissance. Et de notre côté, est-ce que ce serait pas l'occasion de les mettre vraiment en parallèle sur la même année scolaire?
Vous avez parlé aussi dans votre expérimentation d'élèves de LP, des résultats ou des modes de fonctionnement, justement, c'est sur ce sujet que j'aurais voulu que vous précisiez, des éléments qui faisaient ressembler les élèves de LP à des lycéens de la voie générale.
Oui, alors, si vous voulez, les conclusions. Quand on analyse les entretiens et les productions écrites des élèves de LP sont extrêmement contrastées au lycée professionnel. Les élèves qui ont été enquêtés sont d'une filière industrielle. Ce sont que des garçons qui sont en électrotechnique. Donc on a choisi justement une filière, on veut pas être dans les stéréotypes, mais une filière d'élèves qui n'aient pas beaucoup d'appétence a priori pour la littérature. Voilà. A priori. Mais bon, je veux pas rentrer dans ces... C'est un choix délibéré, un peu stéréotypé, mais délibéré. Voilà. Voilà ce qui se passait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où vous avez en effet les résultats les plus contrastés, avec des élèves qui ne semblent être pas capables de restituer grand-chose. Même, on peut se demander s'ils ont assisté au cours. Hein, parce qu'ils confondent un texte par rapport à l'autre. On les a interrogés 15 jours après le cours, pour vous dire un petit peu les choses. Ils ont beaucoup de mal à mémoriser et à stabiliser. Mais on a aussi rencontré des élèves qui n'avait rien à envier aux restitutions des élèves, des meilleurs élèves de la classe de lycée général et technologique. Ah oui, oui. Alors peut-être que le vocabulaire n'était peut-être pas tout à fait à même hauteur de maîtrise, mais au niveau du contenu, il naviguait avec énormément d'aisance sur les trois textes qui étaient des textes littéraires difficiles, et ils avaient construit une culture humaniste déjà relativement élaborée à partir de ces trois textes, et ils étaient capables de naviguer entre ces trois textes et de définir ils étaient même capables de faire la différence entre culture humaniste et culture générale. Et de dire un petit peu quelles approches avaient été adoptées en français et quelles approches avaient été adoptées en histoire. Je pense que quand on parle d'une certaine homogénéité des élèves de lycée professionnel, moi en tout cas je n'en suis plus du tout convaincue. Parce qu'on dit que c'est homogène un peu dans... Parce que comme c'est souvent, malheureusement, une orientation par défaut, on dit que ce sont des élèves qui sont homogènes dans la difficulté. Alors peut-être, mais... Enfin, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au contraire, une très très grande hétérogénéité. C'est vrai que dans certaines filières, ça dépend des filières, en fait. Il ne faut pas généraliser, c'est très compliqué, ça dépend des filières. Et il ne faut pas... Je crois qu'il ne faut pas aussi minorer le facteur social dans l'orientation. Deux des élèves qui ont fait des performances, vraiment des performances par rapport à cette lecture littéraire, je les ai interrogés pour savoir les raisons de leur choix, de leur filière électrotechnique. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un choix d'ordre socio-culturel. Il y en a un qui m'a dit, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait électrotechnique et qui a bien réussi, donc j'ai fait la même chose. Voilà. Et l'autre qui m'a dit, j'ai choisi cet établissement parce que c'est le plus proche de chez moi. Vous voyez, on est dans des logiques qui sont d'ordre socio-culturel. Mais ces deux élèves-là, apparemment, ils auraient eu aucun problème pour suivre en lycée général. Mais je dis pas que c'est dommage qu'ils soient en lycée professionnel du tout. Oui, hein. Mais simplement, ils sont d'un milieu social qui fait que, eh bien, voilà, on suit la filiale de son père ou on va dans l'établissement de proximité parce que c'est ce qu'il y a de moins compliqué pour les déplacements.
Peut-être
voilà.
Qu'on peut émettre l'hypothèse qu'il y a une hétérogénéité dans l'ensemble des voies du lycée. Une hétérogénéité des élèves dans l'ensemble des voies, que ce n'est plus une caractéristique spécifique de la voie professionnelle.
Tout à fait, tout à fait.